Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Trois chroniqueurs, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Midioni. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Christophe.
Trois films cette semaine que nous avons vus et que nous allons commenter peut-être, donner notre ressenti surtout. Il s'agit de Bonnard, Pierre et Marie, de Un silence et de Making of. Commençons, si vous le voulez bien, par Bonnard, Pierre et Marthe. Un biopic, comme on dit, qui ne raconte pas la vie du peintre Pierre Bonnard, mais ses amours avec Marthe et ses lâchetés, sa passion du travail, qui lui fait préférer l'art à la femme aimée. On a déjà lu ça dans l'œuvre d'Émile Zola, mais pourquoi pas. Le film est signé par Martin Provost avec Cécile de France, qui était patente, faut le dire, Vincent Macken, qui est pas mal, Stacy Martin, qui est ravissante. Tout de suite, la bande-annonce.
Si vous voulez devenir un modèle...
J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous.
Cette fille vous complique la vie. Vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre.
Votre mari a fait de vous un mythe, madame.
Un mythe.
Je peux pas passer de toi, je peux pas.
Pierre a beaucoup de chance de vous avoir, Marthe.
Bonnard, le peintre du bonheur. Alors, on se souvient de ce tableau partagé en deux, où on voit une femme nue sur un lit et de l'autre côté, on voit un homme nu debout et qui est partagé par une espèce de poutre dans les violets. Et ça, ça va revenir plusieurs fois dans le décor. Bon, Dominique, à vous.
Bah, ça pourrait s'appeler Pierre et Marthe tout court, parce que sur le peintre Bonnard, on voit finalement peu de choses.
Sinon qu'il travaille beaucoup.
Sinon qu'il travaille, oui. Mais on ne voit pas tellement le fruit de son travail, c'est ça le problème. Donc c'est une histoire d'amour qui traverse le temps et qui se délite lentement. C'est un amour fou qui se délite puisque ça finit par... Il y a une tromperie et puis ça finit par la mort de Marthe. Dans un cadre bucolique, une époque assez bien reconstituée, hein, où on voit passer Claude Monet et Vuillard, qui font un peu de la figuration, mais enfin, ça fait plus vrai, quoi.
Ils apportent le pique-nique.
Voilà, ils apportent les pique-niques, oui. Voilà, bon, autrement, Vincent Macken est assez crédible en Bonnard, il est méconnaissable, c'est vrai qu'on ne le reconnaît pas. C'est à noter que ce comédien, maintenant, on le voit de plus en plus, hein, il commence à percer beaucoup, Vincent Macken. Hein. Et Cécile de France, qui est toujours bien, comme d'habitude, c'est vrai qu'elle elle donne vie à ce personnage, elle est... voilà, c'est un couple, somme toute, assez banal, quoi, mais... C'est pas banal parce que c'est Pierre Bonnard. On peut dire que Martin Provost s'est beaucoup plus intéressé à eux qu'à l'époque, et à l'époque plutôt qu'à la peinture. Ça, c'est un petit peu dommage. Et on aperçoit quelques toiles. Loin de la culture, c'est le sentiment. Alors ça, c'est dans l'air du temps. Au fond, on s'intéresse beaucoup plus au sentiment qu'à l'art. Mmh. C'est une... Voilà. Et donc, il a été tout à fait dans l'air du temps. Sur une fausse, c'est le sentiment et la sensualité qui l'emporte sur tout le reste. Alors ça, c'est parfois un peu dommage. On est un peu frustré, finalement. Même si Cécile de France court nue dans la... va se jeter dans l'eau. Enfin, c'est pas... Voilà. Mais c'est une charmante illustration, moi, qui m'a beaucoup rappelé Cézanne et moi de Daniel Thompson, qui avait cette même idée-là, et qui était très scolaire, finalement, et qui n'allait pas plus loin. Enfin, ou alors le Gustave Eiffel, où on parle plus de l'amour d'Eiffel que de la construction de la tour Eiffel. Donc on décale les faux, mais c'est vraiment un signe des temps. Mmh. C'est-à-dire, on vous raconte une histoire, mais on raconte d'abord une histoire d'amour, parce que l'histoire tout court n'intéresse plus personne. C'est un petit peu ce que nous dit le film.
Mais est-ce que Bonnard est intéressant sur sa vie? Je ne sais pas.
Ça, on ne sait rien.
C'est un immense peintre.
Oui.
Et on a d'ailleurs tous les décors, sont exactement les reproduction des peintures de Bonnard qui a fait beaucoup d'intérieur. Mais est-ce que la vie en elle-même de Pierre Bonnard est très intéressante? J'en sais rien.
Est-ce que la vie de Simenon était intéressante?
Oh, passionnante.
Pas pour... tellement.
Les femmes, vous avez lu la biographie d'Assouline?
Oui, j'ai lu plusieurs biographies aussi.
Marie-Noël.
Oui, je suis assez d'accord avec Dominique. C'est en effet une histoire d'une relation au long cours qu'on voit naître comme un amour fou. Et puis traverser le temps, souffrir de la jalousie et de l'infidélité, et puis se reformer d'une façon plus profonde et plus tragique en allant vers la mort. Donc c'est toute une... Il y a ce sens du temps qui est quand même bien saisie, je trouve, dans le film. Et puis, comme le dit Dominique, il y a peu de peinture, en effet. En revanche, la peinture...
Il rajoute du jaune à chaque fois.
En revanche, la peinture, elle est dans la nature, dans la maison, dans le décor, oui. Et là, il y a en effet cette sensibilité, ces sentiments. C'est très vaporisé, finalement, autour des personnages, plus que dans l'élan intérieur d'un peintre, en effet. On voit d'ailleurs la différence quand il y a la rencontre à Rome entre lui, Bonnard, et soudain la peinture du Caravage. Tout à coup, en effet, il y a une différence qui éclate de nature, et on dirait qu'il s'en rend compte lui-même de ses limites, de ses...
Bon, d'une certaine... Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut rentrer à la maison.
Oui.
Et qu'il largue la fille et qu'il annule son mariage. Parce qu'il veut retourner à l'essence même de son œuvre.
Mais il est, en effet, on voit la différence avec le génie d'un Caravage qui est emporté tellement plus haut, plus loin, plus vers le transcendant, vers des choses immenses et profondes.
Vers l'ombre et la ténèbre, c'est dit à un moment donné. Il n'y a pas assez d'ombre et de ténèbres dans ta peinture. Et encore une fois, ce que je disais, Bonnard,
reste...
le peintre du
Mais
bonheur.
Mais ça a du charme et l'évocation d'époque est très juste,
oui.
Très sensible, y compris dans ses mondanités avec Missia Certe et tout ce côté mondain qui est étranger à Marthe et
totalement.
À laquelle elle demeure absolument dans un retrait sauvage. Ça, c'est assez joliment rendu.
Et elle est très artiste.
Donc il y a des choses fines, mais en effet, on reste un peu plus loin de l'art qu'on ne l'était dans Séraphine, le premier portrait d'artiste de Martin Provost,
avec
Yolande Moreau, oui. Qui était alors là beaucoup plus au cœur de l'art, de la création.
Bernard.
Eh bien, moi, j'ai trouvé ça très réussi.
Oh oui.
Notamment à cause de la réalisation, alors qu'il excelle à saisir les foisonnements de la nature, ces crépuscules aux lumières pures et les fièvres contrastées de la peinture. Et ces trois aspects-là, je trouve, sont particulièrement bien rendus. Les différents personnages, et il y en a quand même un certain nombre, on voit Monet, interprété par André Marcon, notamment, les personnages ont autant de prestance que d'existence, comme illustre notamment la performance de Cécile de France, que je trouve au-delà de l'excellence dans ce film.
Je suis complètement d'accord.
Vraiment.
Elle est...
Et il marie vraisemblance et consistance, alors que souvent dans les reconstitutions, on a des personnages qui détonnent, un ou deux qui sonnent faux. Et bien, pas là. J'ai beaucoup apprécié la séquence du déjeuner bucolique, où vous avez la nostalgie, la colère, la jalousie, et puis ça s'achève par une baignade de l'animosité et du dépit, que je trouve tout à fait réussi. Et on a à la fois une intrigue à la richesse vivace et une narration haut de gamme, ce qui fait que je reprendrai un terme de Marie-Noël. On a le charme et on a la classe. Et ça, c'est vrai que ce n'est quand même pas si fréquent. En plus, Martin Provost compose une atmosphère entre finesse et passion, propre à unir la délicatesse de la reconstitution à la hardiesse de la création. Et ça, je trouve que c'est particulièrement bien restitué. On n'est pas loin des grands films sur la peinture que sont pour moi les films américains, L'Extase et l'Agonie et La vie passionnée de Vincent Van Gogh.
Vous ne nous a pas habitués à tant de dithyrambes.
Mais quand c'est vraiment réussi, et ça fait plaisir. Alors maintenant, là où je rejoindrai mes camarades, malgré des tourments épars et une défunte, on ne dira pas qui, au regard hagard, l'émotion se fait tout de même bien rare. On peut s'étonner que pour une production de cette qualité, il ne fasse pas attention aux anachronismes de dialogue lorsque un critique dit « Celui-ci est bien plus dans les clous ». Oui, c'est sûr qu'à l'époque de Bonnard, on dit ce genre de choses. L'épisode des amours ternaires est à la fois artificiel et sommaire. Et puis la musique se limite à un thème au violon qu'on entend dans la bande-annonce, ce qui fait que c'est un petit peu le parent pauvre de cette production. Mais la danse des couleurs, ici conduite par un couple inspiré, s'exécute ici au rythme d'un pinceau doublé.
Bigre. Je ne suis pas sûr qu'en 1942, au Canet, il y a déjà la bibliothèque de la Pléiade, parce que dans la bibliothèque, on voit des exemplaires de la Pléiade.
Alors, sûr que non.
Je me suis dit qu'en 42, ça devait être assez compliqué. Donc, il faudra.
C'était créé par Gide, la Pléiade.
Mais,
oui.
Mais enfin, il faudra dire ça quand même au décorateur. Je vous propose le deuxième film, Un silence de Joachim Lafosse, avec Daniel Auteuil, Emmanuel Devos et Jeanne Chervin. Alors, c'est une histoire vraie, c'est l'affaire Issel que les Français découvrent au cinéma, alors qu'elle a fait la une de la presse en Belgique. C'est l'avocat des fillettes que Dutroux avait séquestré et qui lui-même a des pulsions tout aussi coupables. Daniel Auteuil est épatant de mystère et de perversité. Emmanuel Devos est parfaite. On écoute la bande-annonce.
Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où? Avec moi, à l'hôtel.
J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il n'est plus possible de me taire.
Vous étiez là depuis combien de temps? Depuis la perquisition? Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois? Madame Scar, votre fils, il va avoir besoin de vous, là. Va à la voiture.
Qu'est-ce qui se passe?
Rien.
C'est toi qui as été sur mon ordinateur?
Ouais.
Mais qu'est-ce que tu fous sur mon ordinateur? Faut que tu me soutiennes. Raphaël, tu es mon fils. Tu fais une connerie, tout le monde le voit. Regarde comme ça les excite. Ils attendent que ça.
Qu'est-ce qui s'est passé hier soir entre votre fils et votre mari? C'est le seul qui savait pas. Moi, j'ai rien dit. Tu te rends compte de ce qui se passe pour lui?
Je sais très bien ce qui se passe, justement, c'est pas le moment de lâcher.
Maman, tu lui as parlé? C'est quand que tu vas réagir là?
Dominique.
Oui, ben c'est ce qu'on a coutume d'appeler un film d'auteur. Parce que, en partant d'un fait divers, qu'on connaît peu en France, hein, tout de même, on aurait pu défiler un scénario beaucoup plus linéaire. Et là, on a choisi un scénario puzzle à tiroir, finalement, où les pièces s'ajoutent les unes aux autres.
Qui correspond bien au sujet.
Oui, mais on s'intéresse beaucoup plus au comportement des personnages et encore qu'à l'histoire elle-même, si bien qu'on est complètement noyé dans le... On suit pas le truc. L'avocat accusé d'aller sur des sites pédopornographiques, bon, on le voit, c'est Daniel Auteuil qui a l'air accablé, qui a l'air perdu. Ça résume pas l'histoire et ça n'explique pas le personnage. Mais il y a un comportement. Donc il ne filme que les comportements, mais absolument pas le déroulé de l'histoire. Donc on est un peu perdu. Et tout est ainsi. On voit l'épouse est très importante, hein, Emmanuel Devos, et puis les enfants qui accusent leur père. Mais là aussi, on voit pas tellement les relations des enfants et du père. Ça se noie dans... Et puis alors, l'image est constamment très sombre. Mmh. C'est un choix qui est un peu pénible. Oui. Donc c'est vraiment...
Vous n'arrivez pas à prendre de notes.
Non, vraiment pas. Non. Mais je prends pas de notes pendant les tours,
ah oui, moi,
parce
oui,
que je suis lisible après. Non, mais c'est très pénible, cette image
sombre,
nocturne et tout le temps. Voilà, donc le résultat, ce sont des scènes qui succèdent dans un va-et-vient désordonné. On noie le poisson pour mieux pêcher une vérité ou un soupçon de vérité, mais cette vérité ne nous éclabousse pas et cette histoire finit par nous désintéresser. Voilà.
Oui, Marie-Noël.
Oui, moi j'ai regretté aussi cette construction exagérément fragmentée. Et dès le départ, il y a une longue scène prenante d'ailleurs avec Emmanuel Devos au volant, seul au volant de sa voiture, pleurant visiblement. Ça, c'est, on est intrigué, c'est un beau début.
Elle a tout compris, mais nous non.
Oui, voilà. Et on attend et on se dit qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a une espèce de... Je ne sais pas comment le qualifier en termes de stylistique littéraire, c'est une asyndète. Mmh. Une rupture complète, une absence de liaison. Et on voit Emmanuel Devos en train de nager Et le plan suivant, c'est Daniel Auteuil auprès d'un tennis. Et quel rapport avec ces deux images de sport et quel rapport entre eux, on ne sait pas. On passe à Daniel Auteuil. Voilà, ça s'élabore comme ça, par rupture extrêmement brutale. Et c'est difficile, en effet, d'adhérer à la narration et au récit. Alors, on est fasciné par l'interprétation des personnages, parce que Emmanuel Devaux, c'est formidable d'intelligence, de sensibilité,
de féminité.
Et puis, avec ce côté à la fois éploré et en même temps crispée sur un déni, sur des choses non dites. Elle fait passer tout ça magnifiquement. Daniel Auteuil est, comme toujours, formidable aussi. Extraordinairement puissant, dégageant une autorité et en même temps...
Et son mystère, toute la noirceur. Il tient la noirceur en lui.
Donc
c'est
les
ça
personnages sont captivants, mais le récit ne l'est pas. Et en effet, on est constamment plongé dans les ténèbres. Alors on voit bien l'intention du réalisateur, qui est que l'addiction à la pédopornographie est comme une espèce de monstre tapis vraiment au fond d'un labyrinthe, et nous on parcourt le labyrinthe et on n'arrive jamais. Mais c'est un problème, je trouve, pour adhérer vraiment à ce film.
Bernard.
Oui, alors je suis d'accord avec mes camarades, je trouve ça décevant. Alors que Joachim Lafosse arrive à apprivoiser la difficulté de son sujet, parce qu'il fait preuve de tact, de sobriété, d'acuité. Tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'interprétation, Emmanuel Devaux, d'une savante expressivité, Daniel Auteuil, entre densité, dextérité et ambiguïté. Et ça, ils méritent tous les deux des éloges appuyés, même le petit jeune, leur fils Mathieu Gallou, qui mérite aussi... un salut authentique. Les dialogues qui sont concis et fléchis parviennent à écarter l'ennui. Et je dirais que c'est peut-être la principale qualité ici, c'est qu'on arrive à ne pas sombrer dans une certaine léthargie grâce à cette qualité de dialogue. Et peut-être que le but de cette production, c'est de s'imposer comme un réquisitoire dressé contre le silence qui voile la pestilence.
Oui.
Et ça, c'est assez bien montré, suggéré, ça, on le perçoit.
C'est bien de le rappeler, le titre, c'est Le Silence.
Un silence.
Absolument, un silence.
Maintenant, le scénario, je suis d'accord avec mes camarades, a peu de bagages, ce qui fait qu'il y a souvent des scènes de remplissage, des scènes de nage. À quoi ça sert? On les voit dans la piscine, la scène où il danse avant d'aller s'en prendre à son père. Est-ce que c'est très important de le montrer? La cadence dramatique est asthmatique. Je suis d'accord avec Dominique sur le manque de lumière. Ça doit être le même chef opérateur que Priscilla la semaine dernière, parce qu'on ne voit rien. Et c'est quand même gênant. Pourquoi tant de scènes de voitures répétitives, sans allure et qui ne possèdent aucune envergure? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça fait beaucoup.
Comme les journalistes et photographes, ils ont pris les mêmes figurants et ils ont multiplié les scènes.
C'est à se demander. On n'a pas le verdict rendu à la fin.
Non.
Et ça suscite quand même une frustration, parce que finalement, ces coupables, cette famille en perdition, ces victimes, tout se confond dans une sorte d'évanescente confusion. Et c'est tout de même gênant. Et puis, sur un sujet comme ça, l'ensemble ne brille guère par son intensité. À aucun moment. Je dirais pour conclure que lorsque les corrupteurs ignominieux se dévêtent avant de garder et d'imposer le silence, il convient sans tarder de dénoncer les sales corps de Mutique.
Oui. Est-ce que c'est pas une façon pour le cinéaste d'éviter le manichéisme, justement, de montrer que tout est un peu dans le brouillard, tout est un peu dans le mystère, et justement, c'est pas...
Mais ça, qu'il le fasse dans un second temps, dans ce cas-là, et qui compose déjà une histoire.
D'accord. Alors, nous passons à Making of à propos d'histoire. Tout le monde ne peut réaliser La Nuit américaine, nous sommes d'accord. Alors, voilà, j'ai tout dit. Donc, Making of raconte le tournage désastreux, mais au dénouement heureux, d'un film social sur l'occupation d'une usine, tourné avec les vrais ouvriers de cette entreprise. Nous avons Podalides, qui est formidable. On a Cohen, qui est formidable. Oui. Mais j'attends de savoir ce que vous allez en penser après la bande-annonce.
Et toi, tu me réponds ça comme ça, tu veux me quitter?
Mais quoi, ce n'est plus couturier que l'usine.
Tu sais très bien que c'est faux, il n'y a pas que l'usine. Mmh. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu vas tout perdre.
Quoi?
Oh putain, t'as vu l'heure?
Quoi?
Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser?
Non, on va pas baiser, je veux bosser.
Oh non, tu fais chier.
Fais-moi bosser mon sexe,
t'en supplie.
Water! Attendez,
Water,
pardon!
Ah ben ça, notre producteur.
La seule chose qu'il vous demande, c'est de remettre le scénario tel qu'il était il y a 6 mois quand ils l'ont validé. Sinon, il se retire du projet.
Je change pas une ligne du scénario.
Ça représente combien votre apport?
1 million d'euros.
Tu dois rejoindre les producteurs au resto.
Non, j'en ai rien à foutre de manger avec les producteurs. On va pas se faire encore un gaspillage avec deux têtes de cul.
Tu te trouves super, Alain? Tu te trouves crédible, un ouvrier?
Ben carrément, à fond.
Mais non, il est nul. On fait des caisses pour faire vrai, c'est ridicule.
T'es obligé de crier tout le temps?
Mais bien sûr. Putain, mais t'as raison 1000 fois.
Le principal financier du film nous a lâchés.
Il faut demander à l'équipe de terminer sans être payé.
Et alors, qu'est-ce que je dis à l'équipe?
Bah, tu dis rien, tu sais, tu tournes. Tu fais comme si tout va bien, tu tournes.
Ton film, comment ça va?
Bah, les techniciens sont énervés.
Vas-y, ferme ta gueule, toi, je te parle pas.
Arrêtez, oh!
Les acteurs font n'importe quoi.
T'es des trucs grandes vedettes! Bravo, mais t'es surtout un énorme fils de pute!
Que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis le capitaine d'un bateau à la dérive.
Eh hey, mais il pleut les gars, il pleut.
Putain mais vous faites tout chier.
Je porte mon projet comme un fardeau et je me sens seul.
T'as trouvé un repreneur?
Non. Alors on a une minute chacun pour dire un peu ce qu'on en pense.
C'est pas un film dans le film, c'est plutôt un film sur le film. Voilà, ou comment réaliser un film au bord du gouffre sur une usine qui doit fermer. C'est-à-dire, il y a deux désarrois et deux catastrophes qui sont face à face et qui se répondent l'une à l'autre. Mais Cédric Kahn parle de ce qu'il connaît, parce qu'un tournage, c'est pas facile, et c'est ce qu'il nous dit. Il nous parle aussi de son amour du cinéma, parce qu'à la fin, on sent que cet amour, malgré les catastrophes, malgré les difficultés, malgré les égos, etc., il faut que le film se fasse, parce que le cinéma doit sortir vainqueur. Et puis, il y a ce dédoublement entre la réalité des ouvriers, et puis cette fiction qui veut la reconstituer, on ne sait plus très bien où on en est. Il y a la confusion, mais la confusion, c'est ça aussi le cinéma.
Oui, c'est comme vous le disiez, une nuit américaine, mais une nuit américaine version politique. Mmh. Là où Truffaut peignait surtout les rapports psychologiques et à la création artistique, Cédric Kahn montre le cinéma comme entreprise économique et financière. Et ça, c'est assez intéressant, puisque ça recoupe bien sûr le sujet du film qu'il est en train de tourner, que le réalisateur est en train de tourner, et qu'on voit le naufrage se communiquer en quelque sorte au tournage lui-même et au film, avec des personnages amusants et intéressants quand même, que ce soit le réalisateur, le producteur lâche et fourbe, etc. Il y a quand même des personnages très amusants, une galerie de...
Bernard, c'est ça. C'est sympathique parce que c'est une vision quand même dynamique et didactique d'un tournage cinématographique avec ses aléas économiques, ses financements hypothétiques, ses idylles atypiques, des conflits cycliques, des tergiversations artistiques et des tracas de santé tyranniques. Les comédiens forcent quand même l'adhésion. L'histoire fait son devoir parce que l'intérêt ne vient jamais à déchoir. Et puis il y a un mélange des tons entre dérision, mélancolie et conviction. Et ça, c'est plutôt plaisant. Maintenant, l'arrière-plan social est un peu envahissant. La charge contre le capitalisme fait preuve de conformisme et de dogmatisme. L'épilogue ne convainc guère. La mise en scène est assez terne. Et puis, ils confondent un peu tous explosion et expression. Je dirais pour conclure que lorsque le plateau prend l'eau, il faut parfois savoir se retirer. En d'autres termes, tournage, fuyons.
Eh bien, nous sommes à peu près d'accord sur ce film Making of. Moi, ça m'a un peu déçu. Oui.
Non, bah des trois, non, moi ça, non.
Non. Rapprochez-vous du micro pour nous raconter.
Oui, non, ça m'a pas su, mais c'est la confusion qui m'a plu.
Bon.
Et puis le cinéma. Parce que
alors.
C'est au cinéma.
Oui. Le cinéma, c'est quand même amusant et intéressant.
Oui, on a toujours
envie d'être... piquant.
On a toujours envie d'être dans l'envers du décor. Nous avons parlé aujourd'hui, merci à tous les trois, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Médioni. Nous avons parlé de Bonnard, Pierre et Marthe, de Un silence, de Joachim Lafosse, et puis de Making of, de Cédric Kahn. Merci à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Peyer pour la réussite technique. Demain, c'est jeudi. Nous parlerons des livres spirituels. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Il fait froid, c'est l'hiver, c'est normal. Je vous embrasse.